4 spécialistes de l'IANA qui traitent toutes les demandes qui nous arrivent. Elle s'occupe des demandes, des requêtes de protocoles de paramètres, des requêtes régionales pour les RIR, ainsi que les requêtes de changement. Andreas et Punky viennent de nous rejoindre. Ils s'occupent des clés et ils travaillent avec Kim sur la DNSSEC pour la racine. Donc, ils s'occupent des cérémonies de signature de clés et de ce genre de choses. Et donc, nous en apprendrons un petit peu plus là-dessus au fur et à mesure de la présentation. Marilia vient de se joindre à notre groupe. Elle s'occupe de l'excellence en gestion commerciale parce que nous avons eu un programme là-dessus au cours des 5 dernières années. Et Marilia s'occupe de l'amélioration continue au sein de notre département. Donc, un petit peu d'historique, et je pense que tous vous avez entendu parler du fait que la CAN a été établie en 1990 pour s'occuper des fonctions de l'IANA en tant que superviseur et opérateur. Donc, nous avons un contrat avec le département du commerce, et donc nous entretenons les registres, les listes d'identifiants uniques pour l'Internet. Ces identifiants uniques sont définis par l'IETF. Donc, nous collaborons et coopérons et coordonnons avec les différentes communautés dans le cadre d'un système distribué, donc avec les RIR, avec l'IETF, la CCNSO et la GNSO. Donc, nous avons des registres qui font autorité, qui sont utilisés par des distributeurs, des fournisseurs de services, des développeurs et d'autres. Et sans l'entretien d'un registre qui fait autorité, eh bien, l'interopérabilité serait affectée. Donc, si je souhaitais, en fait, concevoir un nouveau logiciel que je souhaitais connecter à l'Internet, eh bien, je devrais donc regarder un petit peu les paramètres. Si je souhaitais que mon routeur se connecte à un autre routeur, il faudrait que je m'assure de travailler par les registres régionaux avec une adresse affectée qui soit unique et qui puisse communiquer. Donc, c'est en fait notre travail d'entretenir ces registres. Donc, les 3 fonctions principales que nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont donc les paramètres de protocole et les registres qui les soutiennent, les ressources en nombre et les noms de domaine, qui est en fait qui correspond aux requêtes à la zone de changement à la zone racine. Alors, pour ce qui est des paramètres de protocole, je vais passer le micro à Kim Davis, mon collègue, qui va vous expliquer ce que nous faisons dans ce domaine. Bonjour à tous. Comme Elise l'a dit, nous avons tendance à diviser ce que nous faisons en 3 zones, paramètres de protocole, ressources en nombre et nom de domaine. Mais vraiment, au cœur de notre travail, il y a les paramètres de protocole. Les noms de domaine et les ressources en nombre, en fait, ce sont des formes très spécifiques des paramètres de protocole. Alors, à la base de l'Internet, il y a des centaines de milliers de paramètres de protocole. Ce sont des identifiants dissimulés qui sont essentiels à la fonction de l'Internet, mais qu'on ne connaît pas forcément. Et en tant qu'utilisateur final de produits, on ne sait pas forcément que cela existe. Cela ne fait pas partie de l'expérience de l'usager. Mais coordonner ces paramètres de protocole est forcément essentiel pour assurer l'interopérabilité de l'Internet. Donc, pour vous donner un petit peu une idée des identifiants qui apparaissent dans les registres de protocole, on parle bien sûr d'IP, protocole d'Internet. Il y a aussi les différentes options d'entête, nombre de ports, MIME, etc. Lorsqu'on parle des emails, vous avez un code MIME, extension multifonction de courrier Internet. Donc, les courriers, les courriels sont définis d'une certaine façon pour que lorsque le transfert de courriel se fait entre un appareil et un autre, eh bien, il puisse y avoir compréhension. Donc, il y a des centaines de registres de ce type, mais je crois qu'en termes de paramètres de protocole, ceux-ci sont particulièrement intéressants parce qu'en tant qu'usager, on n'en est pas conscient. Il y a un index des registres qui existe Et vous pouvez avoir une liste complète. Là, vous avez simplement un petit échantillon de ce qui existe. Donc, ces registres de paramètres de protocole, d'où viennent-ils? Eh bien, ils sont développés par l'IETF, le groupe de travail sur le génie Internet. Donc, lorsque vous souhaitez élaborer un protocole Internet, il y a un document qu'on appelle un projet Internet. Une fois que ce document est finalisé, il est publié pour appel à commentaires. En dépit de ce nom, en fait, donc ce RFC est en fait le document finalisé. Lorsque les gens souhaitent créer ceci, eh bien, il y a un certain processus à suivre. Il y a les considérations de l'IANA. Et dans cette section, donc, il est indiqué ce qui est nécessaire pour ce protocole, quelles doivent être les politiques, quelles doivent être les règles que l'IANA doit suivre pour que de nouvelles saisies soient ajoutées au registre et quelles sont les valeurs de réserve qui doivent être utilisées. Donc, comment est-ce que... quelle est l'interaction, quel est le processus par rapport à ce document RFC? Donc, tout commence avant même la publication de ce RFC. Il y a un processus de révision avant la finalisation. Et après la publication du RFC, nous avons ensuite l'obligation de mettre en œuvre et d'entretenir les instructions qui sont contenues dans le RFC. Alors, on va entrer un petit peu dans les détails. Donc, vous avez ici... un RFC. Voilà le type d'instruction que nous recevons de l'IETF dans le document. Donc, comme vous le voyez, donc il est expliqué qu'il faut qu'on crée un registre. On nous explique comment est-ce qu'il doit se présenter, comment l'appeler. On nous dit, par exemple, que l'enregistrement doit être alloué premier venu, premier servi. Il doit y avoir une clé. Donc, il y a différents types d'aspects spécifiques de ce registre en particulier que l'IANA doit suivre. Et chaque registre a différentes exigences. Il y a des centaines de RFC, donc, ou des milliers de RFC, avec des règles spécifiques. Et tout ceci est documenté à l'intérieur du RFC. Donc, lorsque le document, donc avant sa publication, eh bien... il y a contact du département de l'IANA. Nous revoyons tout ce qui nous a été donné. Nous nous assurons de bien comprendre les instructions. Si ce n'est pas clair, nous allons voir les auteurs du document et nous nous assurons de bien comprendre pour qu'une fois que le RFC est publié, eh bien, l'IANA peut mettre en œuvre ce que les auteurs ont souhaité. Alors, lorsque le RFC est terminé, il est approuvé. On a un nouveau protocole Internet, une nouvelle norme. Le département IANA de l'ICANN crée le nouveau registre qui est défini par le document. Ou alors, il peut y avoir aussi mise à jour de registres sur la base des documents. Ensuite, nous entretenons de manière continue ce registre. Nous acceptons les requêtes de registre. Parfois, les gens peuvent venir nous contacter directement pour que nous allouons de manière directe. Si cela est permis dans le cadre des règles du registre, eh bien, nous entretenons ce processus. Mais il y a d'autres registres qui ont des mécanismes plus officiels pour les mises à jour futures. Donc, nous suivons les règles du registre, les politiques, et nous entretenons donc ce registre. Donc, si vous vous rendez sur ce site web, j'ai mentionné tout à l'heure qu'il y a plus de 2800 registres que nous entretenons. Donc, encore une fois, pour 2700 d'entre eux, vous ne les connaissez absolument pas, c'est comme ça. Mais il y en a d'autres qui sont vraiment critiques. Donc, d'une manière générale, ces registres de protocole sont vraiment dans les coulisses. On ne voit pas nécessairement les chiffres directement, mais ce sont des chiffres qui sont cruciaux pour le fonctionnement de l'Internet. Alors, comment est-ce qu'on traite ces requêtes? Donc, il y a réception de la requête. Ensuite, on identifie ce que l'on attend de nous, la politique d'enregistrement, quelles sont les règles Donc, définir le RFC détermine la politique. Ensuite, nous traitons, nous évaluons, nous suivons la politique. Et beaucoup de nos registres sont extrêmement spécialisés. Donc, souvent, nous allons nous rendre auprès d'un expert en ce sujet spécifique pour évaluer les requêtes. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est impliqué dans ce processus qui est là, présent devant moi. Donc, Liana n'est pas expert sur chacun de ces registres. Lorsqu'il y a besoin de faire une évaluation très, très spécialisée, eh bien, nous nous adressons aux experts dans la communauté pour avoir davantage d'informations. Ensuite, une fois que nous avons terminé cette évaluation, nous mettons à jour le registre et nous informons la personne qui nous a présenté la requête que l'enregistrement est terminé. Donc voilà un petit exemple. Comment est-ce qu'une requête pour, par exemple, un nouveau média fonctionne? Donc imaginez-vous que vous avez inventé un nouveau format de fichier, nouvelle technique, vous avez une nouvelle façon de stocker des données, nouvelle extension. Comment est-ce que vous vous assurez que lors du transfert sur l'Internet, les choses sont faites correctement? Par exemple, je ne sais pas, une pièce jointe dans un navigateur. Donc vous allez voir Liana et vous demandez un nouveau type de média. Donc nous avons une requête qui se présente sous forme de formulaire. Nous passons en revue la requête, nous assurons que tout a été rempli. Nous envoyons un expert technique qui s'occupe de l'enregistrement. On s'assure que la requête est acceptable. Ensuite, nous ajoutons le type de média au registre. Nous confirmons la requête et c'est terminé. Donc d'une manière générale, c'est un petit peu comme cela que ça se passe. Nous recevons une demande, nous consultons avec les experts, nous terminons, nous mettons à jour le registre public parce que tout ce que nous faisons est public. Donc n'importe qui peut se rendre, regarder la liste, voir le type de média et cela peut être mis en place dans les logiciels. Alors, combien de requêtes est-ce que nous traitons? Eh bien, environ 4000 par an. Pour la plupart d'entre elles, elles nous viennent de la communauté des personnes qui développent, des développeurs pardon, de logiciels. Ce n'est pas les usagers finaux. Alors, en termes de performance, comment est-ce que ça se passe? Au début, j'expliquais que la genèse de ces registres, c'était vraiment l'IETF. Alors, le fonctionnement de Liana, la rapidité du fonctionnement, tout ceci est, se fait en conjonction avec l'IETF. Il y a des discussions par rapport à l'évaluation de la performance. Tout ceci est supervisé. Donc, en 2007, nous avons commencé à faire des rapports sur les conventions, les produits livrables de la convention de service. L'ICANN se réunit avec les responsables de l'ETF pour voir s'il faut mettre à jour, revoir, modifier annuellement. Donc, vous voyez en bas un petit peu pour l'année 2014. Nous sommes rencontrés pour tous nos SLA de l'année 2014. En termes d'indicateurs clés de performance, eh bien, nous en sommes à 98%, voire 100% de réussite. Alors maintenant, je vais passer le micro à Élise. Qui va nous expliquer la deuxième partie de cette présentation, les ressources en nombre. Merci, Kim. Je voulais mentionner, à la fin de la partie sur les paramètres de protocole, que nous avons là le plus grand nombre possible de requêtes que nous recevons. Et c'est ceux qui sont le moins compris par la communauté. Mais la plupart de notre travail se produit au niveau des paramètres de protocole. C'est à ce niveau-là que nous recevons le plus grand nombre de requêtes. Alors, retournons maintenant au nombre. Alors, un petit tableau pour vous montrer. Donc, vous voyez en jaune les trois types de catégories, les adresses IPv4, les adresses IPv6 et les nombres AS. Donc, AS, c'est système autonome. Voilà donc les nombres qui sont alloués sur la base des politiques mondiales et des registres régionaux. Donc, pour ce qui est des affectations, ce sont les affectations de nombres dans les adresses IPv4, IPv6 et les nombres AS. En fait, il y a des formules déterministes d'allocation. Donc, l'IPv4 les adresses IPv4 sont allouées sur la base d'un plan. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu dire que nous n'avons pas assez d'adresses IPv4. Eh bien, en fait, c'est en 2011 que ceci s'est produit. Donc, en fait, le dernier bloc d'adresses IPv4 a été attribué en 2011. Tout ce qui nous reste, ce sont des petits bouts qui ont été rendus. Et donc, on les conserve. Et il y a une formule déterministe qui nous permet de déterminer comment les allouer. Donc, nous n'avons plus réellement de demandes IPv4. Pour les IPv6 et les nombres AS, ils sont alloués sur la base d'un reçu de requêtes justifiées de registre Internet régional. Nous sommes en rapport avec les RIR. Les usagers finaux doivent s'adresser dans leur région aux responsables de leur région. Donc, si par exemple quelqu'un a besoin d'une adresse IPv6 à Singapour, on va leur dire de se rendre, de s'adresser plutôt à l'APNIC. Donc, pour confirmer un petit peu, pour ce qui est des types d'allocations pour l'IPv6 et l'ASN, il existe une formule qui permet de générer une requête. Donc, si, par exemple, vous êtes à Singapour et que vous êtes en train de bâtir un réseau et que vous souhaitez un nombre AS parce que cela est nécessaire pour vous, vous allez vous rendre à APNIC et ils ont une formule qui permet de dire, bon, d'accord, vous pouvez obtenir ce nombre AS. Et si APNIC n'a plus de nombre de systèmes autonomes, il y a en fait un groupe de nombres qui existent. Et donc, si par exemple, ils n'en ont plus assez, ils vont s'adresser à nous, au département de l'IANA, et nous dire, ça y est, l'ensemble de nombres AS dont je dispose est passé en dessous de la barre. Est-ce que je peux en avoir davantage? Voilà un petit peu comment fonctionnent les nombres IPv6, les nombres AS. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les IPv4, il ne nous reste plus beaucoup de nombres IPv4. Donc, il y a une formule, un plan qui a été créé par les registres Internet régionaux qui s'est transformé en politique régionale. Et donc, voilà comment sont faites ces allocations. Ensuite, il y a des nombres spéciaux. Les gens n'en savent pas forcément beaucoup là-dessus, tout comme ils n'en savent pas beaucoup sur les paramètres de protocole qui sont faits par l'IETF. Ce sont des allocations de nombres spécifiques pour la recherche, pour les multicasts et d'autres types d'allocations. Et ceux-ci sont définis par le protocole IETF, par les spécifications RFC. Et donc, nous avons un groupe qui a été alloué, qui a été réservé pour l'utilisation de l'IETF. Donc, ce n'est pas quelque chose qui s'adresse à la population générale.
Donc, pour voir un petit peu plus en détail les étapes, comment nous procédons, d'abord, nous recevons au département de l'IANA une requête du RIR. Le RIR, c'est donc Registre Internet Régional. Nous voyons s'il qualifie, si cette requête est recevable, alors c'est une requête d'adresse IPv6. S'il y a moins de barre 12 et barre oblique 12, c'est un énorme volume de nombres, alors... Il y a encore 6 ans, nous donnions des RIR pour ce genre d'adresse IPv6. Donc ensuite, quand ils envoient cette requête, comme vous le voyez, il y a une formule qui détermine ce qu'ils obtiennent. Donc nous utilisons les données des RIR pour savoir combien d'adresses ont été affectées sur la base de barre oblique 12. Et ça, c'est un exemple du RIPE NCC IPv6 Ça, c'est le registre de la région Europe, le centre de coordination des réseaux IP Europe. Excusez-moi, j'allais faire un commentaire. Je ne savais pas que vous rentriez dans la salle. Parenthèse. Alors, vous voyez ici un exemple de ce à quoi ressemble le tableau que nous entretenons. Donc, en d'autres termes, on indique le préfixe de l'adresse IPv6. Personne ne sait vraiment le lire et le dire simplement. Ça n'est pas comme l'IPv4, 1, 22, etc. Ils sont beaucoup plus complexes. Ensuite, ce que cela nous indique, c'est qui détient ce bloc Internet, la date et le statut. Voilà en gros le type de tableau que nous maintenons. Ensuite, l'affectation des RIR, une fois qu'ils les reçoivent, ils les communiquent à leur communauté d'opération et à leur région. Alors, revenons à l'IPv4. Que se passe-t-il à ce niveau-là ? En fonction de la formule, il y a deux types d'affectation de ce qu'on appelle le groupe IPv4 retourné. Donc nous avons une formule que vous pouvez voir à l'écran et qui figure en ligne aussi. Vous pouvez la télécharger et vous pouvez voir le prototype par rapport au groupe et ce qui va se passer si on ne reçoit plus d'adresses retournées. Donc cette formule est comparée au groupe des adresses IPv4 deux fois par an, le 1er mars et le 1er septembre. Donc, ça n'est pas une requête qui arrive au département de l'IANA et les experts de l'IANA n'ont pas à la traiter. Mais cette formule est suivie en fonction du calendrier. On continue à utiliser cette formule et à la comparer au groupe. Ensuite, on communique les résultats par l'intermédiaire du registre, de l'opérateur de registre et par l'intermédiaire des RIR. Donc les gens sont très enthousiasmés par les adresses Internet et comme on a pu le voir au cours des quatre dernières années, il y a un certain nombre d'affectations du département de l'IANA qui a à voir avec les RIR. Bien entendu, tout cela est lié au déploiement des adresses IPv, à l'épuisement, pardon, des adresses IPv4 et au fait que l'IPv6 est un espace énorme pour les registres RIR. Donc, comme Kim l'a dit, avec les paramètres de protocole, nous avons des objectifs très ciblés en termes de paramètres, également des indicateurs clés de performance que vous pouvez voir sur l'adresse IANA/performance. Toutefois, c'est difficile d'avoir un contrôle vert, enfin d'avoir une petite coche verte lorsque vous n'avez pas de résultat. Mais je suis encore fière de dire que nous avons traité tout ce qui avait été envoyé au SLA. Mais nous travaillons en étroite coopération avec eux pour établir des politiques mondiales qui passent par les RIR et nous assurer que nous mettons en œuvre la formule IPv4 pour le groupe retourné tel que cela avait été prévu. Donc voilà tout ce que j'avais à dire par rapport à l'affectation des adresses IPv4, IPv6 et des registres que nous entretenons au nom de la communauté. Je vais repasser la parole à Kim Davis qui va nous parler des noms de domaine et des changements en la matière. Kim Davis au micro. Merci, Elise. Étant donné le calendrier des réunions ICANN, vous ne serez pas surpris de voir qu'il s'agit de la partie la plus intéressante. Comme je l'ai dit auparavant, il y a tous ces paramètres de protocole fondés sur L'IETF, le système DNS se fonde sur des paramètres de protocole que vous ne connaissez peut-être pas. Il s'agit de type algorithme DNS. Et ça, il faut le faire de manière cohérente. Comme je l'ai dit auparavant, l'affectation se fait par les personnes qui mettent en œuvre, mais ce n'est pas la même chose que l'on fait avec le DNS et les règles IETF qui sont développées. Lorsqu'on parle de nom de domaine à l'IANA, ce à quoi nous faisons référence, ce n'est pas la conformité, les aspects de la conformité, mais les noms de domaine TLD et nom de domaine de second niveau. Vous voyez ici, ça ne va pas être une surprise pour beaucoup. Le nom de domaine est très hiérarchisé. Vous pouvez y penser comme un arbre. En haut, la racine du nom de domaine. En dessous, les noms de domaine de premier niveau. Et en dessous, nom de domaine de deuxième niveau. En dessous, nom de domaine de troisième niveau, etc. Et ça, ça concerne les ressources nombre, nom de domaine. Les ressources de nombre ont également une racine, racine IANA, qui est divisée en branches. Et l'espace des noms de domaine fonctionne de la même manière. Excusez-moi, je reviens en arrière. Donc, ici, l'idée, c'est que la racine, c'est la principale responsabilité de l'IANA. Entretenir la racine, ça veut dire entretenir les délégations de domaines de premier niveau. Nous entretenons la base de données qui enregistre les noms, les domaines de premier niveau qui existent, savoir qui les opère, etc. Alors pourquoi quelqu'un s'adresse à l'IANA pour changer cette racine? Bon, d'une manière générale, un événement se produit qui entraîne cette requête. Donc d'abord, il faut changer. Il y a un changement dans l'opérateur TLD. Cela peut donner lieu à un nouveau TLD. Autre type de changement qui entraîne un changement dans la racine, c'est une maintenance de routine, un entretien de routine. Il faut par exemple changer un TLD. Il y a un support par rapport au serveur ou un nouvel environnement. Et donc, il y a un changement par rapport à l'opérateur TLD. Autre cas de figure moins courant, ça peut être une catastrophe naturelle. Par exemple, vous avez les noms de domaine de premier niveau fondé sur les extensions géographiques. Parfois, il y a un ouragan avec des problèmes sur l'infrastructure, des séismes ou tout type de catastrophes naturelles. Donc, voilà l'information que nous entretenons pour les domaines de premier niveau. D'abord, qui gère le TLD ? Adresse physique, nom légal, contact administratif, contact technique, nom, poste, adresse de l'entreprise, téléphone, fax, mail. Ensuite, configuration technique. Il s'agit des données qui permettent au TLD de fonctionner. Il s'agit d'une service de serveur de nom qui opère le TLD. Et nous avons également une liste d'autres informations, les métadonnées, qui ne sont pas forcément intéressantes pour la zone racine, mais très utiles pour la communauté. Par exemple, où est situé le service WHOIS, etc. Donc, il s'agit d'un copier-coller des données que l'on a pour Dot Hambourg, pour Point Hambourg.